dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et ce soir, nous allons évaluer la gouvernance sous l'ex-président malien Amadou Toumani Touré, décédé lundi en Turquie. Nous en parlons alors que le pouvoir de transition à Bamako doit donner suite au rapport du vérificateur général qui, après examen des dépenses publiques sur 2 ans, a révélé un trou de plusieurs milliards de francs CFA. A tout de suite.
Dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Baba Dakono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité et ancien chercheur à l'Institut d'études de sécurité au bureau de Dakar au Sénégal. En rendant hommage à l'ex-président malien Amadou Toumani Touré décédé, le président de transition, Bandao, parle d'un homme au destin exceptionnel qui a contribué, dit-il, à façonner le visage du Mali moderne. Il cite des projets de routes, de ponts, d'écoles et de santé. Qu'en est-il de l'héritage de ATT en matière de bonne gouvernance, l'une des priorités justement du président de transition?
Merci pour cette question qui est double, hein, parce que c'est vrai que du président ATT, on retient les 2002-2011, son mandat où il avait été élu, mais ATT, c'est aussi celui qui a façonné l'édification de la Troisième République. C'est sous la période de transition qu'il avait conduit que la Troisième République est née, à travers l'adoption de la Constitution du 25 février 1992. Donc à cet égard, c'est aussi une des figures emblématiques de l'avènement de la démocratie multipartite dans le pays. Maintenant, s'agissant des 9 années ou presque 10 ans de gouvernance qu'il a eu à faire à partir de 2002, le bilan, il est diversement apprécié. C'est vrai que c'est sous ce mandat quand même où on a vu des projets de développement, vous l'avez rappelé, mais c'est aussi sous ce mandat qu'il y a eu de nombreux scandales financiers et des phrases qui lui étaient attribuées où il disait qu'il ne veut pas faire honte à un chef de famille, donc qui laissait croire au niveau des Maliens une certaine forme de laxisme de la part du président de l'époque. Donc oui, le bilan est diversement apprécié parce que...
Et très problématique en matière de lutte contre la corruption.
Oui, c'est surtout à ce niveau que beaucoup de ses détracteurs jouent parce que justement, c'est sous son mandat que le pays a connu des gros scandales. On se rappelle du scandale au niveau du Fonds mondial, la gestion du Fonds mondial de lutte contre le paludisme.
Cela justifiait un certain laxisme, vous le disiez. Il fermait les yeux sur certaines pratiques de détournement, certaines pratiques condamnables.
Bon, même s'il ne fermait pas les yeux, il n'en faisait pas objet d'une grande focalisation médiatique. Mais si on fait le ratio aujourd'hui, c'est vrai que peu de personnes étaient arrêtées, mais le taux de recouvrement des fonds détournés était beaucoup plus élevé qu'actuellement. Donc,
est-ce que cette façon de gérer les détournements de fonds publics a permis pour autant de réduire cette pratique au sein de l'administration malienne sous ATT?
Absolument pas, absolument pas. C'est vrai que, je le disais, les fonds ont été recouvrés, mais le phénomène, lui, il a continué de plus belle. Et d'ailleurs, l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta a été considérée par les gens à l'époque comme une certaine forme de rupture pour justement mettre fin à ce laxisme-là et au développement croissant du phénomène de la corruption.
Ce qui ne s'est pas arrêté, puisque le dernier rapport du vérificateur général sur la corruption en 2013 et 2014, c'est-à-dire au moment où le président Ibrahim Boubacar, qui est l'ancien président, arrive au pouvoir, évoque un trou abyssal de 153 milliards de francs CFA détournés en 2 ans.
Comme je le disais, il a été élu dans un contexte de forte attente. Et l'une de ses attentes, c'était justement l'amélioration de la gouvernance et d'arrêter avec la pratique de laxisme. Donc, notamment à partir de 2015, les gens se sont rendus compte que finalement, cet homme de poigne qu'ils espéraient à la tête du pays n'est plus celui qu'il était au milieu des années 90. Donc, il n'a pas pu mettre fin à ce phénomène. Et au contraire, vous le rappelez tout à l'heure, le phénomène s'est amplifié et a gagné des secteurs sensibles comme la défense, qui, il faut le rappeler, il y avait un budget de plus de 1 200 milliards qui avait été voté dans le cadre d'une loi de programmation militaire et qui est considéré, dont une partie est considérée comme détournée par certains acteurs.
Vous espérez que le président Tomba Ndao donne suite, une suite judiciaire à ce rapport du vérificateur général?
Techniquement, la suite judiciaire qu'il peut donner, c'est une suite politique. C'est-à-dire qu'il doit permettre à la justice de faire son travail. Parce que ce que les gens disent, c'est que c'est beaucoup plus au niveau des pressions politiques que la justice reste bloquée.
Et justement, évoquant ce contexte sécuritaire difficile, quelles sont les chances que le nouvel exécutif américain qu'incarne Joe Biden, sauf surprise, s'intéresse ou s'implique dans le financement du G5 Sahel?
Les chances restent les mêmes que sous l'administration Trump, parce qu'on le sait, la politique étrangère américaine change difficilement, les présidents changent. Mais la politique, dans le fond, reste pratiquement la même. Il est important aussi de rappeler que les États-Unis ne sont pas totalement désengagés dans le Sahel. Il y a un représentant spécial. Le pays apporte un soutien logistique à la force française.
Surtout au niveau du renseignement.
Au niveau du renseignement. Donc oui, il n'y a pas un désengagement américain.
Le G5 Sahel souffre d'un déficit de financement criard. Est-ce qu'on peut espérer que les États-Unis mettent les mains à la poche?
Ça va dépendre de la politique et de la capacité des présidents de la région à faire ce plaidoyer-là.
Baba Dakono, merci beaucoup. Et vous êtes secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité et également ancien chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS.
Merci.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous allons parler ce soir de la rentrée scolaire 2020 dans plusieurs pays d'Afrique francophone en pleine crise sanitaire. Et je vous rappelle nos invités, Alpha Amadou Banou Bari, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation en Guinée. Monsieur le ministre, bienvenue.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Epiphane Azon, président de la Fédération nationale de l'Association nationale des parents d'élèves du Bénin, FENAPROB. Bonsoir, Epiphanie Azon.
Bonsoir, madame. C'est FENAPROB plutôt.
Vous dites, monsieur Azon?
C'est la FENAPROB plutôt, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin.
FENAPROB, vous dites?
FENAPROB, P-E-B.
D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Azon, de cette précision. Abdelkerim Koundougoumi, vous êtes directeur du Bureau Afrique d'Internet sans frontières. Bienvenue à vous.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être là. Monsieur, je vais commencer par le ministre Barry. Monsieur le ministre, quels sont les dispositifs anti-Covid qui ont été mis en place dans votre pays, la Guinée, pour une bonne rentrée scolaire?
Écoutez, il n'y a rien de nouveau dans ce dispositif. C'est un dispositif, disons, qui a déjà été expérimenté au moment de la fermeture de la fin de l'année scolaire 2019-2020. Grosso modo, on utilise le principe de la distanciation, le principe de l'utilisation des masques, le lavage des mains, puisque toutes les écoles sont dotées en kits sanitaires. Il y a pour chaque école possède un thermoflash. Il y a des bavettes qui ont été distribuées en très grande quantité au niveau de l'ensemble des écoles du pays. Le gros problème que l'on a, c'est parce que cette fois-ci, c'est tout le système qui rentre en même temps. Alors qu'au moment de l'achèvement de l'année scolaire, on était dans un dispositif où on a commencé avec les écoles, les classes d'examen, et après on est passé avec les classes.
C'était progressif.
Voilà, cette fois-ci, on est obligé d'envoyer tous les enfants à l'école en même temps, ce qui fait que dans les grandes villes comme Conakry, où les effectifs sont énormes, on a naturellement des craintes et actuellement, on est en train de travailler au niveau du gouvernement pour mettre en place un dispositif de
test. Donc, vous voulez nous dire qu'au niveau de la distanciation, les choses n'ont pas été correctement faites puisque vous dites que les effectifs sont pléthoriques. Donc, cela signifie que la distanciation est difficile à appliquer.
C'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, puisqu'on n'a pas encore ouvert les classes, il est prévu que l'on ouvre dans la semaine entre le 16 et le 1er décembre, nous sommes en train de travailler pour voir dans quelle mesure il est possible d'utiliser la distanciation. C'est possible dans les villes de l'intérieur, ça ne pose pas de problème parce que les effectifs ne sont pas très élevés, mais dans la capitale à Conakry, pour l'essentiel, c'est un problème très important qui se pose. C'est un défi très important qui se pose au système éducatif. Nous avons aussi mis en place un dispositif de test massif au niveau des écoles, à la fois des enseignants, mais aussi des élèves. La question est de savoir si nous avons les capacités réelles de pouvoir faire ce test à grande échelle, conformément à l'ensemble des élèves que nous avons, puisque au niveau du public, simplement, de l'enseignement public, on a plus de 1 500 000 enfants, alors qu'on a en même temps, au niveau du secteur privé, une proportion relativement importante.
Voilà, c'est un véritable défi, Monsieur le ministre Barry. Monsieur Azon, alors comment, en tant que parent d'élève, vous accueillez les mesures qui ont été mises en place au Bénin? Est-ce que vous pensez que ces mesures sont susceptibles de rassurer le parent que vous êtes sur une meilleure rentrée, une bonne rentrée scolaire?
Bon, il n'y a pas eu de modification. Hein. Les mesures existaient depuis l'existence de cette pandémie-là. Je crois que ça a été respecté jusque-là, mais cette fois-ci, le hic, c'est que la rentrée à l'instar de ce qui se passe en Guinée, la rentrée est une rentrée populaire, c'est-à-dire que c'est tous les élèves, tous les écoliers qui ont commencé en même temps. Bon, il y a eu une pré-rentrée le 21 septembre et le 28
octobre,
la rentrée a été totale.
Oui, mais comment est-ce que les mesures sont mises en place? Le ministre parlait tout à l'heure de la difficulté en Guinée qui est celle d'assurer la distanciation au regard des effectifs. Est-ce que vous avez le même problème au Bénin?
Oui, ce n'est pas possible. Il est vrai, la distanciation, ça a été une des mesures, mais qui n'a pas réussi jusqu'à ce moment à cause des effectifs pléthoriques. Ça, ce n'est pas dans la capitale seulement, ce n'est pas à Cotonou seulement, c'est partout dans le pays.
Et cela vous inquiète-t-il, M. Azon?
Oui.
Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ce manquement sur cet aspect justement de distanciation?
Bon, disons que je suis un peu inquiet, mais j'avoue que les parents ont eu un grand rôle et ont joué ce rôle-là, à savoir... et sensibiliser leurs enfants à la maison pour qu'ils ne soient pas obligés d'être corps à corps avec leurs collègues à l'école. Mais maintenant, le problème, c'est que...
Mais comment vous sensibilisez vos enfants à la maison et ensuite à l'école? Ils sont 3-4 par banc tout au long de la journée, pendant des heures. Est-ce que vous pensez...
Oui, un sacré problème. Hein. Toutes les mesures peuvent être respectées, sauf la distanciation. Tant que les effectifs seront pléthoriques, on ne peut pas réussir cette distanciation-là dans aucune ville du Bénin.
D'accord. Monsieur Abdelkerim, restez en ligne, Monsieur Azon. Monsieur Koundougoumi, est-ce que la solution n'aurait pas été peut-être d'éclater les classes ou alors peut-être d'organiser des cours à domicile, comme on le voit un peu ici en France, des cours en ligne pour certaines catégories d'élèves?
En effet, ça aurait été la solution idéale. D'abord, quand on prend globalement, l'Afrique n'est pas prête. L'Afrique est très en retard. Vu actuellement le niveau de perturbation du système éducatif africain, le niveau de fracture numérique qui existe en Afrique et le défi d'assurer la continuité de l'éducation, quelle que soit la situation. Donc nos États n'ont pas anticipé cette situation. Maintenant, la première vague est passée. Les écoles ont été fermées, c'était la solution radicale, donc tout le monde était resté à la maison. Mais si on analyse cette première vague, comment les États se sont organisés pour pouvoir assurer la continuité de l'éducation, je crois que sur l'ensemble du continent africain, pas plus de 20% des étudiants, des élèves ou même du primaire ou du secondaire ont pu continuer l'école parce que vu l'état de la connectivité de l'Afrique qui est à peu près...
Notamment pour les écoles et les universités publiques.
Voilà, les universités publiques, les écoles primaires et secondaires, c'est très différent en fait, les solutions sont différentes. Maintenant, pour moi, je ne suis pas très optimiste étant donné que nos États n'ont pas cherché la solution de ce côté-là. Les États n'ont pas cherché à augmenter la connectivité, la capacité de ces institutions éducatives pour pouvoir continuer à assurer cette...
Mais justement, cette pour quelles raisons? Comment expliquer cela? Puisque normalement, les États auraient dû tirer les leçons de la première vague qui avait obligé beaucoup de pays à fermer les écoles, sinon l'ensemble des pays africains à fermer les écoles. Pourquoi il n'y a pas eu cette prise de conscience après de renforcer la connectivité, notamment pour les écoles et universités publiques?
Ça aurait été la solution idéale. L'effort doit être orienté, l'investissement doit être orienté vers cette solution. Mais je crois, à part la Guinée équatoriale, le Maroc, la Tunisie et je crois aussi le Kenya, aucun autre pays n'a investi vraiment pour augmenter la connectivité de sa population.
Merci.
La solution idéale, c'était ça, justement, que nos États, maintenant, puissent aussi aller vers ces solutions. Aujourd'hui, on ne peut pas uniquement demander aux gens de rester à la maison sans ordinateur, sans Internet, sans électricité et demander de continuer les cours, ce n'est pas possible.
Monsieur le ministre, on va revenir à vous, Monsieur Koundougoumi. Monsieur le ministre, une réponse à cette inquiétude de M. Koundougoumi qui relève que on n'a pas cherché des solutions allant dans le sens du renforcement de la connectivité qui aurait pu permettre justement à certains élèves de suivre les cours de la maison et désengorger les salles de classe.
Vous savez, la question de la connectivité, il ne faut pas la voir simplement sur la capacité des États à fournir, disons, un service de formation à distance. Il faut aussi prendre en considération que la formation à distance, c'est une pédagogie particulière. Cela signifie qu'il faut préparer les enseignants à pouvoir dispenser des cours à distance. Et ça ne s'improvise pas. Un cours à distance n'est pas un cours en présentiel. Ça exige une pédagogie différente, ça exige un personnel formé à cela.
Et pourquoi les autorités n'ont pas pris le temps, ça fait depuis mars qu'on parle de Covid, de cette pandémie, et cela fait depuis plusieurs mois aussi que vous prépariez cette rentrée scolaire. Pourquoi n'avez-vous pas pris le temps de préparer les enseignants, de préparer le terrain justement à cette solution?
Vous savez, la pédagogie d'une formation à distance, ça ne s'improvise pas. Vous avez des gens qui ont fait une carrière, pratiquement l'intégralité de leur carrière en situation présentielle. Un bon matin, vous leur demandez de changer. Ce n'est pas aussi évident que cela. Le dispositif doit aller en progressant. Sans compter qu'il y a, dans le pays, vous avez des zones où le niveau de connectivité est relativement faible par rapport à d'autres. Vous avez donc une fracture internationale du point de vue de la connectivité, mais à l'intérieur même des pays, une fracture nationale.
Monsieur le ministre Barry, vous dites justement que le problème n'est pas l'intérieur du pays, que c'est la capitale Conakry. Donc on suppose que dans la capitale au moins, l'accès à Internet est moins difficile que dans les zones rurales.
C'est vrai, c'est une évidence. Mais vous savez, quand vous voulez mettre en place un dispositif de formation, vous êtes dans un système national. C'est relativement compliqué de pouvoir avoir un système qui ne prend pas en charge l'intégralité du système éducatif dans sa globalité. Parce que, par exemple, pour la distanciation, à Conakry, on a réussi très facilement pour terminer l'année à pouvoir décomposer les groupes. À l'intérieur du pays, on n'en avait pas besoin parce qu'on a des zones en Guinée qui n'ont pas connu de Covid, c'est-à-dire qui sont totalement exemptes. Il n'y a eu aucun cas depuis le début. Il y a d'autres zones qui sont des zones, disons, avec une forte présence pandémique. C'est comme le cas de Conakry où il était possible, on a été obligé de mettre en place ce dispositif. Encore une fois de plus, lorsque un problème de cette nature, de cette ampleur se pose au un système éducatif qui est relativement lourd, avec pratiquement plus de 55% des fonctionnaires, des agents de l'État, ce n'est pas aussi évident de changer l'intégralité des paradigmes en rapport avec la formation, l'enseignement, que l'on peut imaginer dans un simple discours comme ça, voilà.
Merci. Monsieur Azon, alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est l'expérience dans les écoles privées, puisque vous aussi vous expliquez que dans les écoles, les établissements publics, il y a un problème d'effectifs qui se pose, qui fait que c'est difficile de respecter la distanciation. Est-ce que c'est le cas dans les établissements privés?
Oui, dans les établissements privés, il n'y a pas autant d'espace également, donc le problème de distanciation se pose. Le problème de distanciation se pose, mais il n'y a pas une véritable solution à cela. Disons que les enfants sont obligés de faire avec, mais ce qui est navrant de constater, c'est que le cache-nez ne sera plus obligatoire aujourd'hui. Les enfants, même quand on leur impose le cache-nez, tant à l'école que dans les rues, vous constatez que dans les rues, déjà, ils l'enlèvent. Et à l'école même, parfois, ils l'enlèvent. Et c'est lorsque le surveillant général approche qu'ils remettent tous en...
Donc, il n'y a pas de surveillance. Et puis, ce n'est pas strict, alors?
Oui, oui, c'est strict. Mais le surveillant général, il y en a combien? Et ils ne peuvent pas rester, ce n'est pas un surveillant général par salle de classe.
Mais est-ce que dans ces conditions, quand vos enfants rentrent à la maison, est-ce que les parents ne sont pas un peu inquiets quant à une possible contamination? Parce que si la rentrée se passe dans les conditions que vous décrivez, les parents sont exposés à cause de leurs enfants qui, eux, ne sont pas suffisamment protégés.
Oui, j'avoue qu'on se remet à Dieu, hein. On se remet à Dieu et qu'il joue sa partition, c'est tout. Parce que toutes les dispositions sont prises pour que, pour que les règles soient respectées par les enfants, mais ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas et puis...
Est-ce que vous avez interpellé les autorités, notamment le ministre béninois de l'Éducation, sur vos inquiétudes?
Oui, mais de manière déconcentrée, il y a le directeur du collège, il y a le directeur de l'école lorsque c'est école primaire. Mais est-ce qu'il peut être dans son bureau, être partout à la fois? C'est complètement difficile. Donc c'est pourquoi je dis qu'on se remet à Dieu et nous sommes dans la bien que pourra.
Résigné. Voilà. Merci à vous, messieurs, et nos internautes débattent aussi. Et c'est le moment d'accueillir Édouard Béranger-Ning qui va nous livrer quelques questions de nos auditeurs. Bonsoir, Édouard.
Bonsoir, Liliane. Bonsoir à tous.
Restez avec nous.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Merci de nous rejoindre pour la suite du grand rendez-vous et nous parlons de la rentrée scolaire 2020 qui a eu lieu et qui aura lieu dans les prochains jours en Afrique francophone en pleine crise sanitaire. Et nos invités sont Epiphane Azon, président de la Fédération nationale de l'Association nationale des parents d'élèves du Bénin, Abdel Kérim Koudungoumi, directeur du Bureau Afrique d'Internet sans frontières, et Alpha Amadou Bano Barry, ministre guinéen de l'éducation et de l'alphabétisation. Et justement, Édouard, il y a une question qui est adressée à au ministre guinéen.
Effectivement.
Par un de nos auditeurs.
Par un de nos auditeurs.
Boubacar Fofana.
Boubacar Fofana, exactement, Liliane, qui demande à monsieur le ministre, ne craignez-vous pas que cette rentrée scolaire soit le facteur d'une deuxième vague?
Comme ministre, c'est toujours une grande inquiétude. Je peux vous garantir que dans le système éducatif, la hantise de tous les responsables, c'est d'avoir des cas de coronavirus au niveau des élèves. Nous faisons le maximum de nous-mêmes et nous faisons l'essentiel de l'effort pour avoir une école exempte de corona. Mais je peux vous garantir que l'inquiétude est grande. Tout le monde est conscient que si pour une raison ou une autre on a des cas de corona à l'intérieur du système éducatif, ce serait une catastrophe nationale. Et c'est pour cela que nous insistons sur les moyens à partir desquels nous avons des contrôles pour s'assurer qu'il y ait un minimum de risques possible.
Mais, monsieur le ministre, je voudrais juste préciser que à ce jour, la Guinée compte 12 426 cas et 74 décès. Je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre. Et en parlant de deuxième vague, monsieur le ministre, on constate justement que dans votre pays, le Covid continue de gagner du terrain. Et on parlait notamment du cas de la préfecture de Bokké, où mardi, à l'issue de deux jours d'un test de dépistage du personnel d'une agence de la Banque centrale, six employés ont été testés positifs sur 49 travailleurs. Donc cela veut dire que l'école n'est pas exempte de ce risque de forte contamination.
Oui, vous avez raison. Il est difficile de parler de deuxième vague d'abord en Guinée pour le moment. Les chiffres ne permettent pas de parler de deuxième vague. On sait.
Mais quand on regarde l'ampleur des cas, 49 tests, 10 personnes testées positives sur 49 tests, c'est quand même énorme.
C'est énorme. Mais vous savez, jusqu'à présent, nous avons.
Pardon, 6 personnes sur 49 travailleurs testés positifs.
Exactement. Exactement. Donc, jusqu'à présent, en réalité, nous avons une situation où on sait que l'épidémie circule, on sait les zones dans lesquelles il y a un niveau de circulation et on connaît les catégories. Pour le moment, nous avons très peu de cas au niveau des enfants et des jeunes. Disons que nous avons des informations du point de vue de l'ANS, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui nous donne des indications comme quoi le niveau de contamination au niveau des enfants ou des élèves, en fait, est relativement faible par rapport à la population adulte. On espère que cette tendance ne va pas s'inverser et qu'on ne se retrouvera pas dans une situation où de plus en plus ce sont les jeunes qui sont contaminés. Parce que là, ça deviendrait extrêmement grave pour le pays. Parce que vous savez, nous avons une population extrêmement jeune.
Merci. Edouard, deuxième question
bien sûr,
de nos auditeurs.
Bien sûr, une deuxième question de Omar Diaw, adressée donc à monsieur Azon, bien sûr, qui demande, auriez-vous préféré une année blanche plutôt que de faire courir le risque de contamination à vos enfants?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, il n'est pas question d'une année blanche. L'année dernière, ça a été pire que ça et disons, la peur était si forte. Mais nous avons pu braver l'année et ça s'est bien terminé. Donc, nous ne sommes pas du tout pour une année blanche, du tout alors, et on va mettre tout en œuvre pour que l'année se passe, enfin, se termine.
Donc, vous acceptez le risque, monsieur Azon, vous acceptez le risque, vous acceptez de prendre le risque?
Non, la vie en elle-même est un risque, hein. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il y a la pandémie que nous sommes face à des risques.
D'accord.
Nous sommes en permanence avec les risques. Donc, chacun doit se prémunir et prendre les dispositions pour que le risque ne soit pas
diminué. Donc, enfin, la question est de savoir, est-ce que vous acceptez que vos enfants prennent le risque? D'accord. Donc, vous dites qu'il vaut le coup parce que vous ne souhaitez pas une année blanche. Oui, terminez vos propos, s'il vous plaît.
Non. C'est-à-dire que le constat, c'est qu'au niveau des enfants, le risque de contamination est moindre.
D'accord.
Ça, c'est ce que nous avons remarqué, et c'est plutôt parmi les grands. Et puis, à partir de 50 ans, on est vraiment exposé.
D'accord.
Merci. Avec les enfants, je crois que, avec tous les risques qu'ils prennent, je n'en ai pas connu fondamentalement attraper le virus.
Merci. Monsieur Koundougoumi, est-ce que vous pensez, en écoutant le ministre guinéen de l'Éducation nationale, que les autorités ont réellement envie d'explorer la piste connectivité comme une solution pour désengorger les salles de classe où la distanciation n'est pas respectée et où le virus est susceptible de circuler largement?
Moi, je crois qu'avant de répondre à votre question, je voulais d'abord... j'étais très inquiet par rapport aux affirmations de M. le ministre en s'agissant de la question de la digitalisation de l'éducation sur notre continent. C'est très inquiétant de voir des leaders qui justifient leur insuffisance suffisance par l'incapacité ou le fait de dire qu'on ne peut pas le faire parce que le système est lourd, parce que on trouve toujours des excuses.
Parce qu'il n'y a pas possibilité de prendre une telle décision au niveau national.
Les leaders sont faits pour anticiper, innover et trouver la solution. Et comment les autres États ont fait pour s'en sortir? Comment les autres États ont prévu? On a, depuis février jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 8 mois de Covid qu'on a. Pourquoi nos États, nos dirigeants n'ont pas trouvé de solution en 8 mois? Et là, on est en train de se projeter encore avec le Covid pour l'année prochaine. Les gens ils parlent encore de septembre prochain. Donc, si à chaque fois on est là en train de dire qu'on ne peut pas parce qu'on ne pourra pas, je crois que M. le ministre doit convaincre le gouvernement guinéen et tous les autres, d'ailleurs ses partenaires africains, à vraiment penser à relever le défi de la digitalisation de nos institutions, de notre système éducatif, afin d'offrir à notre jeunesse une continuité d'éducation de qualité.
Ce n'est pas seulement pour le primaire, mais aussi pour les études secondaires et supérieures. C'est incontournable.
Et la deuxième solution, il n'y a pas que le digital. Aujourd'hui, on peut continuer à dispenser des cours par des radios communautaires, par la télévision communautaire. Si aujourd'hui, il n'y a pas Internet au niveau rural, on peut le faire à travers des radios communautaires. Pourquoi on ne mobilise pas ces moyens? Pourquoi on ne mobilise pas la télévision nationale ou bien de créer des télévisions communautaires afin de continuer à assurer une éducation de qualité ou à assurer la continuité de notre éducation? Aujourd'hui, la Guinée, je parle de la Guinée puisque c'est monsieur le ministre de la Guinée, a les moyens de pouvoir donner à tous les étudiants guinéens des ordinateurs ou avoir de l'accès à Internet ou de pouvoir continuer les cours. Aujourd'hui, la Guinée a les moyens de pouvoir créer des centres où les gens qui n'ont pas d'Internet ou des étudiants qui n'ont pas Internet peuvent aller continuer les cours.
Et vous êtes prêt peut-être éventuellement à accompagner si
donc,
jamais
oui. Mais notre souci, c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique se retrouve en urgence numérique. La fracture numérique de l'Afrique par rapport aux autres du monde est incroyablement dangereuse. L'Afrique est exclue. C'est ça notre crainte. C'est ce qui a mis en exergue le Covid, a mis en exergue l'insuffisance de notre continent.
Est-ce que, monsieur, sans vous couper la parole,
regardez aujourd'hui les autres pays, en France ou en Europe ou ailleurs. Tous les étudiants, je dis bien, tous les étudiants sont à la maison, sont en train de suivre les cours comme si de rien n'était. Pourquoi chez nous, il y a des problèmes? Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas capables de...
Bon, on ne peut pas dire tous les étudiants, parce que même ici en France, il y a quand même des élèves qui vont à l'école et c'est envisagé.
Parce que le plus important, l'enseignement supérieur et l'enseignement, c'est ce qui permet aujourd'hui à la jeunesse africaine d'avoir une compétence.
D'accord, mais est-ce que vous pensez, M. Kudungumi, qu'il est tard aujourd'hui pour les États de rattraper, de se rattraper par rapport à cette connectivité qui, selon vous, est une véritable piste pour réduire le nombre d'élèves dans les salles de classe?
On a un retard de 10 ans, madame. On est retardataire de 10 ans. Et si on continue toujours encore à trouver des excuses, excusez-moi, des termes injustifiables, on continue toujours à trouver des raisons qui ne justifient pas notre retard.
Nous allons
donc maintenant, la question, c'est de dire que c'est un défi, que c'est de l'urgence. Il faut que nos dirigeants prennent ça comme une urgence sanitaire. On va résoudre ces problèmes-là. Dans le cas échéant, on va continuer encore à parler du même problème dans 10 ans.
Monsieur Barry,
les mêmes émissions dans 10 ans.
Monsieur le ministre Barry?
Oui.
Oui, vous êtes interpellé.
Non, c'est-à-dire que c'est facile de faire le procès ou alors de détourner ce que la personne dit pour en dire ce qu'on a envie de dire. Moi, je suis arrivé à la tête du ministère de l'Éducation le 19 juin 2020. J'ai trouvé un système en place.
Que vous n'avez pas tenté de corriger.
Exactement. Non, attendez. Pour la continuité éducative en Guinée, nous avons utilisé les radios. Nous avons utilisé la télévision. Nous avons acheminé dans tous les villages de Guinée des cours supprimés. Partout, il n'était pas possible d'avoir accès à la radio ou à la télévision. Partout, il y avait question. On a travaillé avec des opérateurs téléphoniques où on a mis des contenus d'enseignement sur les plateformes des compagnies de téléphonie pour permettre aux enfants d'accéder. C'est à la suite de l'ensemble de ce dispositif que l'on a décidé d'ouvrir l'école et de compléter le dispositif en prenant d'abord les enfants en situation qui sont en classe d'examen avant de prendre ceux qui ne sont
pas. Mais justement, monsieur le ministre Barré, là vous dites ce que vous avez fait, mais nous réagissions sur ce qui doit être fait pour une meilleure rentrée scolaire. C'est ça le débat. Vous nous expliquez ce que vous avez fait. Alors, si vous avez constaté que ces mesures que vous décrivez ont marché quand il y avait la pause scolaire, pourquoi ne pas l'intensifier ? Pourquoi ne pas les intensifier, ces mesures, maintenant, avec la rentrée scolaire ?
La philosophie que l'on a de pouvoir faire une formation à distance, c'est d'avoir un système mixte. Nous avons, à l'heure actuelle où je vous parle, un projet. Et nous sommes en train de travailler là-dessus pour avoir un système de e-gouvernance au niveau du système éducatif, couplé à un système de formation à distance, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, pour leur accompagnement dans le système, dans le dispositif pédagogique. Mais vous savez, ça prend du temps pour mettre tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça s'improvise. On peut vouloir la chose. Nous avons dégagé des moyens financiers. Nous avons un accompagnement du PNUD, de l'UNICEF. Nous avons un accompagnement du Programme mondial de l'éducation par rapport à ce dispositif. Tous ces éléments sont en train de se développer. Mais ce n'est pas un bon matin qu'on se réveille et on va dire, voilà, on a réussi le dispositif et le problème, ça marche.
Il semble que le dispositif ne soit pas suffisant puisque vous venez vous-même de reconnaître que pour ce qui est de cours à distance, il y a encore des choses à faire. Et justement, à ce sujet, monsieur le ministre, je voulais que vous commentiez un peu les propos de la CONACYSED, c'est un syndicat d'enseignants au Gabon, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, qui affirme que la rentrée s'est faite un peu dans la précipitation et que il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment préparées. Et le syndicat indique que sur le plan sanitaire, par exemple, à ce jour, il y a une absence des mesures barrières dans plusieurs établissements scolaires, primaires et secondaires notamment, la non-désinfection, l'absence des points d'eau, des cubitaines, du savon, des gels hydroalcooliques, des thermoflashs. Cela veut dire qu'il y a une inquiétude réelle de la part de certains acteurs de l'éducation par rapport à cette préparation de la rentrée.
Je ne sais pas quelle est la situation exacte du Gabon, mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que l'intégralité des écoles publiques et privées de la Guinée possède des kits sanitaires. Du savon, du gel, qui ont été distribués. Simplement, le gouvernement en lui-même a
donné... Dans tous les établissements de toute la Guinée.
Dans tous les établissements de Guinée.
Et les stocks sont suffisants.
On a calculé pour chaque élève qu'il y ait 3 masques. 3 masques par élève. C'est ce qui a été distribué. On a distribué plus de 9 millions de masques sur l'ensemble du territoire national.
Merci.
Et nous avons même des stocks qui ne sont pas utilisés et qui sont actuellement avec nous.
Merci beaucoup.
Parce que nous avons bénéficié d'un financement relativement important.
On va marquer une pause obligatoire et on vous revient.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la suite et fin du grand rendez-vous. Et nous débattons ce soir de la rentrée scolaire 2020 dans plusieurs pays d'Afrique francophone alors que la crise sanitaire se poursuit. Et nous allons encore continuer le débat quelques instants avec nos invités. Monsieur le ministre Barry, est-ce que vous pouvez conclure vos propos ? Vous étiez en train de dire que tout le dispositif nécessaire à une bonne rentrée et à un bon déroulement de l'année académique a été mis en place en Guinée et oui, ce sur l'ensemble du territoire national.
Le dispositif sanitaire est totalement au complet sur l'ensemble du territoire national, au niveau de toutes les écoles. Ce matin, nous avons fait encore une autre réunion avec les fondateurs des écoles privées pour vérifier le dispositif au niveau des écoles privées. Je peux vous garantir qu'on a non seulement distribué suffisamment de seaux, nous avons distribué suffisamment de savon, suffisamment de gel hydroélectrique, nous avons distribué suffisamment de thermoflash dans toutes les écoles de Guinée pour permettre de flasher et de contrôler le dispositif sanitaire. Maintenant, le gros problème que nous avons, et ça il faut le dire, c'est la question de la distanciation. Mmh. À un moment donné, il était facile de faire cette distanciation parce que nous avons fonctionné avec des classes particulières bien précises.
D'accord, vous l'avez dit, monsieur le ministre.
Voilà, il y a toutes les classes en même temps.
D'accord, et c'était ça la crainte de Monsieur Abdelkerim Koundougoumi qui estimait que justement les cours par ligne auraient pu permettre de résoudre cette équation, de la difficulté à faire respecter la distanciation. Alors, je voudrais m'adresser à vous justement, Monsieur Koundougoumi. Depuis quelques jours, dans plusieurs pays africains, la courbe de contamination continue de se tasser un peu. Et au Sénégal, par exemple, on parle de 9 cas, 9 cas mardi, alors que le nombre de patients encore sous traitement est de 27. D'ailleurs, le président Macky Sall, dans un tweet, a souhaité une bonne rentrée scolaire aux élèves, la rentrée qui aura lieu jeudi 12 novembre au Sénégal. Est-ce que cette tendance à la baisse de taux de contamination ne risque pas justement d'être un piège, c'est-à-dire pousser les élèves et même la communauté éducative à baisser la vigilance?
Je crois qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut être très prudent. Étant donné qu'on n'a pas les moyens de tests, aujourd'hui, je ne sais pas quel est le pays africain qui est en train de tester toute sa population pour savoir le taux de contamination. Je ne sais pas. La situation du Tchad, c'est encore pire. Le Cameroun, ça, je ne vous dis pas, il y a beaucoup de pays où on ne fait pas de tests pour savoir s'il y a des malades ou faire des tests. Même au niveau des écoles ou des universités, pour savoir si les étudiants sont contaminés. C'est bien de mettre des savons, c'est bien de mettre des thermoflages, mais à un moment donné, il faut aussi tester, il faut faire des tests PCR ou des tests sanguins pour savoir si les gens sont contaminés ou pas. Et vu là aussi, moi, m'inquiète le plus, c'est que je ne suis pas en train de dire que monsieur le ministre n'a rien fait ou pas ça. Mon inquiétude, c'est vraiment au niveau de la réalisation des choses. Si monsieur le ministre a trouvé son ministère et a fait des réalisations, c'est parfait. Nous avons besoin des gens qui font des choses. Et c'est à encourager. Bravo, monsieur le ministre, si vous avez des choses, c'est parfait. Maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête au niveau de la Guinée, étant donné que la circulation des personnes et des biens en Afrique, vous savez ce qui est temps. Le contrôle de cette circulation, vous savez ce qui est temps. Maintenant, c'est de mutualiser les forces afin qu'ensemble, au niveau régional et sous-régional, qu'on puisse déployer des stratégies communes pour combattre cette maladie. Sinon, si c'est seulement un seul pays le fait et s'enferme, ça ne servira absolument à rien parce que ce pays-là se fera contaminer. La circulation des étudiants aussi, parce que les étudiants voyagent. Le cas le plus flagrant, c'est entre le Cameroun et le Tchad. On voit les étudiants tchadiens aller au Cameroun,
résider,
et ainsi de suite. Et vice-versa. Je crois qu'en Guinée, c'est pareil. Cette circulation des élèves
libre entre circulation les régions, en Afrique de l'Ouest.
En Afrique de l'Ouest. Par exemple, en Guinée, les gens qui sont dans la capitale, ils vont aller étudier ailleurs, ou les gens qui sont dans les zones rurales viennent étudier dans la capitale. Tout cela montre que la maîtrise de la circulation de cette maladie est fondamentale, étant donné que la jeunesse est l'avenir de l'Afrique. Alors, ne laissons pas cette jeunesse être contaminée et en plus affaiblie par cette maladie. Déjà, c'est une jeunesse qui est affaiblie par tous ces maux qu'on connaît. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution. Si le monsieur le ministre a fait ce qu'il a dit, ça, je
merci
dis vraiment bravo de votre part et continuez. Je ne vous juge pas, mais si j'ai réagi, je ne suis pas guinéen, mais je suis panafricain parce que ça met tout ce qui se passe en Guinée. Je veux que la jeunesse guinéenne, les étudiants guinéens, les élèves guinéens aient la même éducation, les mêmes compétences, le même accès au savoir et briller comme toutes les jeunesses africaines. C'est ça ce qu'on veut.
Merci beaucoup, monsieur.
Votre procès, mais on est exigeant.
D'accord. Et vous attendez beaucoup. Monsieur Koundougoumi, ce sera votre mot de fin. Une minute, monsieur Epiphane Azon, pour répondre à cette question. Cette baisse de chiffres, même si monsieur Koundougoumi reste prudent en Afrique, est-ce que cela ne risque pas de faire baisser la garde? Et comment est-ce que vous, les parents, vous organisez pour que, justement, cette vigilance soit maintenue et que on continue à sensibiliser pour éviter une nouvelle vague?
Oui, nous continuons la sensibilisation. D'abord, chaque parent chez lui, il y a des émissions radio qui sensibilisent davantage. Et les enfants sont évidemment un peu comment dirais-je, il y aura de cette pandémie-là. Bon, ils peignent d'y avoir cette pandémie alors qu'elle existe. Il vaut mieux faire avec au lieu de penser que c'est terminé.
Merci.
Donc, nous continuons d'observer la veille pour dans cette sensibilisation.
Pour attirer l'attention des jeunes, des enfants sur le risque qui reste réel. Une minute également à vous, Monsieur le ministre Barry, pour conclure. Est-ce que vous estimez que, de votre point de vue, toutes les mesures qui ont été mises en place par votre ministère en Guinée sont susceptibles de garantir le bon déroulement de l'année scolaire dans votre pays ?
Écoutez, si je pouvais avoir cette certitude, je serais un homme très heureux. Je peux dire simplement que nous faisons et nous regardons tous les paramètres, tous les jours qui passent, pour s'assurer que le dispositif fonctionne, que le système éducatif ne va pas devenir un foyer de propagation de la pandémie. Mais encore une fois de plus, nous travaillons de telle sorte que, par exemple, nous avons fixé un cap, c'est qu'en 2021, à la fin de l'année 2021, que nous ayons un système de formation à distance suffisamment clair et net avec du personnel formé pour pouvoir avoir un système mixte entre la formation en présentiel et la formation à distance.
Voilà que vous vous mettez d'accord avec M. Abdelkerim Koundougoumi qui plaidait justement pour cette connectivité pour permettre une formation à distance. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que nous recevions ce soir dans le débat sur les conditions de reprise ou de rentrée scolaire dans les pays africains, le ministre guinéen de l'alphabétisation et de l'éducation nationale, Alpha Amadou Banou Barry, Epiphanie Azon, président de la Fédération nationale de l'Association nationale des parents d'élèves au Bénin, et Abdelkarim Koundougoumi, directeur du Bureau Afrique d'Internet sans frontières. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Préparation du plateau, Édouard Bérangier-Ning, réalisation Hugo Vallière. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Et cette émission est disponible en podcast sur africaradio.com et elle sera également rediffusée à 23h heure de Paris, soit 22h temps universel. Restez avec nous.